Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Fidèles auditeurs, merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix, pour vous tenir compagnie en ces jours. Dans une déclaration politique rendue publique le week-end dernier, le parti politique Front National de Fédéralistes du Congo propose, pour réduire les coûts des élections en RDC, de modifier la constitution pour que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par des grands électeurs. Que pensez-vous de cette proposition? 0-81-890-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais le magazine peut être aussi commenté sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay, Pierrot et la Mégis. C'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Merci d'être avec nous et nous recevons dans ces studios Monsieur Marcel Ilunga Léou, président du Front National des Fédéralistes du Congo. Monsieur Ilunga, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pirot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a milité, qui a poussé votre parti à faire cette proposition?
Oui, Monsieur Pirot, il vous souviendra que lors de son adresse à la Nation, devant les deux chambres réunies en congrès, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis certaines préoccupations. Mmh. Entre autres, celle de voir le président de la République élu au suffrage universel direct à deux tours, c'est-à-dire revenir à la situation de 2006. Et c'est une préoccupation tout à fait fondée et légitime. Comment voulez-vous qu'un chef de l'État puisse être élu si c'est à un seul tour, avec 15%, 20%, mm-hmm. 30%, alors il préfère bien pour qu'on donne plus de légitimité au chef de l'État, qu'il soit élu au suffrage universel, mais à deux tours. Et de l'autre côté, je vous souviendrai que le Parlement qui avait révisé la Constitution pour passer de deux tours à un tour avait comme raison fondamentale la réduction du coût des élections. À ce propos, je voudrais vous informer que le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, a toujours insisté en disant qu'il ne faudrait pas que les élections puissent coûter beaucoup plus cher que le coût du développement. Et il a toujours demander qu'on réfléchisse pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire davantage le coût des élections. Ce qui est aussi tout à fait fondé. Alors, ainsi, nous, à Fonafec, nous nous sommes dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une proposition qui va rencontrer les deux tendances? C'est à ce titre que nous avons fait cette proposition. Nous nous sommes dit, c'est bien, on peut revenir au détour. À ce moment-là, que le chef de l'État soit élu au suffrage universel indirect, par les grands électeurs. Et nous avons défini les grands électeurs, c'est l'ensemble d'abord des élus locaux de toute la République, les députés provinciaux de toute la République, les députés nationaux et les sénateurs de toute la République, les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Donc, en bref, tous ceux qui ont leur mandat électif, ceux qui ont été élus, ils deviennent des grands électeurs. Et ce sont ceux-là qui peuvent se regrouper circonscription par circonscription, et ils vont passer à l'élection du président de la République. Et là, je peux vous rassurer que même en demandant chacun de venir avec un papier duplicateur, plus son stylo, et juste mettre le nom, même au stade, mettre le nom de son candidat et jeter dans l'urne. On procède au dépouillement sur place et à la publication des résultats sur place, quitte à la CENI maintenant de faire la mise en commun et déclarer les candidats avec leurs voix qu'ils ont obtenues. Et si, à ce moment-là, il n'y a aucun candidat qui atteint la majorité absolue, on revient au deuxième tour, comme l'a préféré le chef de l'État. Et à ce moment-là, on va élire à ce deuxième tour-là le président de la République qui aura au-delà de 50% de voix. Et on revient à la légitimité telle que le chef de l'État l'a préférée. Et de l'autre côté, l'avantage, on réduit encore le coût de ces élections-là. Voilà ce que nous avons pensé. Nous proposons, et c'est une proposition, nous avons besoin d'enrichissement.
Mais est-ce que quand on regarde, je vis tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, hein, tous ceux qui ont commenté ces sujets, on revient sur la question des élections indirectes avec ce qui s'est passé avec l'élection des sénateurs, des gouverneurs. Cela veut dire qu'il y a un problème sérieux aujourd'hui de corruption en amont. Parce que les gens ont peur qu'on tombe dans la même circonstance. Est-ce qu'on peut avoir la crédibilité du procès électoral par le fait que le président est élu par les grands électeurs?
Tout à fait. D'ailleurs, la corruption, c'est un mal qui doit être combattu par tout le monde. En commençant par le plus haut sommet jusqu'à la base. Nous devons tous combattre la corruption. Personne ne doit accepter la corruption dans le processus électoral. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ces électeurs-là, ces grands électeurs, ils sont d'abord représentatifs, d'autant plus que c'est un grand nombre. On peut avoisiner de 1 million et quelques d'électeurs. Mais ils seront les uns les autres dans leur circonscription. C'est-à-dire, le candidat président de la République va battre la campagne auprès d'eux, comme s'il battait la campagne auprès des électeurs primaires. Et les élections vont se passer dans chacune de ces circonscriptions-là. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est quoi? C'est que le nombre d'électeurs sera bien connu, circonscription par circonscription. Il n'y aura pas la possibilité du bourrage des urnes. Vous voyez ça? Mmh. Et ça, c'est un avantage certain qui sécurise même les élections. Et en plus, on devra, dans la modification de la loi électorale, interdire les cadeaux.
C'est à tous les niveaux des élections.
À tous les niveaux des élections. On doit interdire, pas question de donner un polo, pas question de donner un pagne, pas question de donner de l'argent. À ces moments-là, on laissera les électeurs voter libre, en toute indépendance. Donc voilà, chez nous, au fond, on a fait comment on réfléchit. La sécurisation sera là. Parce que, évidemment, vous savez, même dans ces élections universelles directes, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les leaders d'opinion qui rentrent dans les circonscriptions. Et dans ces circonscriptions-là, ils orientent la population en disant « votez pour tel ». Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. Lors des élections passées, quelqu'un arrive à Kabongo, c'est dans le territoire qui se trouve dans ma province d'origine, le Olomami. Il arrive là, il trouve des mamans dans un village. Il pose la question « maman, mais vous allez voter qui comme président de la République ?» Et les mamans l'ont dit que on nous a dit qu'il faut voter Fayulu parce que c'est notre frère Mouluba de Malembankoulou. Vous comprenez la motivation pour ces mamans-là? Il y a quelqu'un qui leur a dit. Donc, et ils sont en train de voter, non pas en âme et conscience, mais parce que orientés par quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi pas cette maman-là ou ces mamans-là se faire représenter par leur fils qu'ils ont élu comme conseiller des collectivités ou des secteurs, parce qu'ils le connaissent, que ici nous prenons l'enfant de tel, pas cette famille-là, et ce sont les gens serviables, ainsi de suite. Et celui-là, maintenant, va les représenter à l'élection présidentielle. Donc, voilà comment nous avons réfléchi, et nous pensons qu'avec ça, on va revenir à ces deux tours-là pour donner la légitimité au président de la République. Et aussi, on va réduire davantage le coût des élections.
Voilà, on va écouter les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils pensent de la proposition? Vous êtes nombreux à vouloir commenter les sujets en direct au 081-890-4969. Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
On vous écoute Omar.
Merci.
Merci Pierrot pour cette émission qui se déroule en ce jour historique du 24 janvier 2020. Je pense que les lumineurs de ma cogitation, je voudrais faire une approche diachronique ou historique. En 2006, je ne voudrais pas revenir avec le conscient antérieur, mais en 2006, lorsqu'on a placé le principe des deux tours, le but était ultime, était principal, c'était d'avoir un président légitime qui soit reconnu par tous. Il y avait un suffrage universel direct. En 2011, le 20 janvier, lorsqu'on a voulu reviser de un tour, de deux tours à un tour, selon ceux qui ont fait cette révision, on a estimé qu'il y avait un problème de coût qui s'est posé. Mais il y a eu, en effet, en droit, ce qu'on appelle la fraude de la Constitution. C'est-à-dire, on ne viole pas les textes de la Constitution, mais on en contourne l'esprit. Le but principal était de favoriser ceux qui géraient à l'époque. Alors, par rapport à la proposition d'une invitée, c'est vrai, nous l'avons toujours dit, nous sommes un état de droit et chacun est libre de proposer. Si aujourd'hui aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, il y a un système de grands électeurs, c'est qu'il y a une dose civilisée qui existe. Déjà, on s'est inspiré des élections des sénateurs et autres. Ce n'est pas mauvais en termes de quoi, en termes de légitimité, qu'on fasse l'universel indirect. Mais je pense, dans les contextes actuels, ce n'est pas encore prêt. Il y a des préalables, c'est vrai, qui doivent être faits pour que nous puissions y arriver. Parce qu'en ce jour, nous n'avons pas encore une administration forte de l'administration électorale. Des deux, nous n'avons pas encore assez d'opérateurs politiques conséquents qui peuvent voter avec une âme et conscience. Donc, demander en ce jour qu'on fasse le suffrage indirect, qui aurait occasionné la fraude que l'invité tente de combattre.
Alors, mais, Omar, mais est-ce que quand on regarde avec l'élection au suffrage direct, que ce soit en 2006, 2011, 2018, on est revenu encore sur la question de la fraude. On a estimé que les gens ont voté, mais il y a eu toujours des fraudes. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens contestent les résultats. Les 2006 ont été contestés. Mais est-ce que la question aujourd'hui, c'est au niveau de la fraude qui peut être contournée d'une manière ou d'une autre, ou soit c'est ce que vous avez dit d'abord, d'avoir une administration électorale assez forte?
Le problème pour le Congo, d'abord, ce n'est pas qu'il y ait fraude ou pas, comme vous dites, c'est d'abord d'avoir une administration électorale forte. Mm-hmm. Je l'ai toujours dit lorsque nous critiquions les animateurs de la CENI. Nous pouvons même prendre un an, ce qui vient, mais s'il n'y a pas des mécanismes forts de contrôle interne, ça ne passera pas. Donc, l'idée est bonne pour qu'il y ait un coût moindre, pour qu'il y ait légitimité, il faut qu'on passe à deux tours. Mais l'idée du suffrage indirect ne paraît pas le mieux adapté pour deux raisons. Premièrement, nous n'avons pas encore cette efficacité au niveau des élections. Des deux, nous avons un problème sérieux de la civilisation des hommes politiques congolais. Je crois que ces deux préalables doivent d'abord être faits avant qu'on en passe. Donc, ce qui doit être fait actuellement, c'est de renforcer ces mécanismes électoraux pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Voilà mon ami, très cher Pierrot, ma petite contribution.
Merci beaucoup Omar. Vous estimez qu'il faut d'abord renforcer des mécanismes forts au niveau de l'administration électorale, mais avoir aussi une civilisation en termes de, c'est-à-dire indépendance d'esprit dans le choix, n'est-ce pas, de politiciens qui peuvent être appelés des grands électeurs. Merci beaucoup Omar. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui Pierrot, bonjour, bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, je pense qu'on ne doit pas se moquer du peuple. Cette proposition, c'est vrai qu'on peut respecter leur avis, leur avis, mais c'est un avis qui ne cadre pas avec ce que veut le peuple aujourd'hui. Vous savez très bien que depuis quelques temps, le peuple réclame même le suffrage universel pour les gouverneurs. Alors ça m'étonne que l'unité va dans le sens inverse. Alors quel est notre problème? Vous voyez, nous avons, ou nous devons programmer les élections dans, maintenant il nous reste 4 ans. Ça suffit que nous venons de consommer une année. Et vous voyez très bien que du côté des finances, tout le monde est déjà en train de s'agiter parce que les finances ne marchent pas. Ça suffit que si nous marchons de façon catholique dans le domaine des finances pour préparer nos élections, on n'aura pas besoin de parler du coût des élections. Alors cet argument du coût des élections, c'est un argument fantaisiste. À mon sens, on ne devrait pas parler du coût des élections parce que les choses doivent être programmées. Nous avons 5 ans de mandat et pendant les 5 ans, on sait que les élections vont coûter autant de millions. On met de côté chaque année quelque chose pour ces comptes élections. Alors, l'invité, je veux bien, on nous parle des grands électeurs de cette République, M. Spiro. Les grands électeurs viennent, nous parce qu'on les fabrique. On les fabrique. Nous avons vu comment les choses ont marché avec les élections des sénateurs. C'était des grandes personnalités. Et on nous a dit, oui, ces gens-là, ils seront respectueux des règles. Des règles, qui les a respectées? Nous avons la CENI. Aujourd'hui, si vous dites, bon voilà, on a des grands électeurs, plus question de parler de la population, mais ça, ce sera vraiment foutre la République dans les plus grands, dans les plus grands désordres. Et moi, je pense, à mon sens, que il est malvenu aujourd'hui de commencer à parler de grands électeurs pour des élections le suffrage indirect. C'est vraiment malvenu.
Voilà. Alors, Olivier, vous avez dit qu'on fabrique des grands électeurs. Mais alors, si on doit avoir le souci de la transparence, parce que vous l'avez dit, avec les élections des sénateurs, on a critiqué les grands électeurs. Mais alors, qu'est-ce qui doit être fait, même si on restait dans le suffrage direct, qu'est-ce qui doit être fait en réalité?
Je vous le sens très mal. Oui,
je disais tout à l'heure que vous avez critiqué le grand électeur. On a vu avec ce qui s'est passé avec les élections, n'est-ce pas, de sénateurs et gouverneurs. Alors, même si on restait dans le mode direct, qu'est-ce qui doit en réalité garantir que la volonté de la population soit exprimée ou respectée, Olivier?
Oui, vous savez, Pierrot, nous avons un problème, c'est que l'éducation, c'est une chose que nous sommes à développer. L'éducation, c'est le premier élément. Et lorsque nous éduquons notre population à l'honnêteté, je pense qu'on n'aura pas à craindre que ce soit. Mais le drame, c'est quoi? C'est que dans toutes les organisations que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas d'honnêteté. Toutes les organisations, je dis bien. Alors, nous avons d'abord un problème d'éducation, et c'est par là que nous devons commencer. C'est vrai que, bon, commencer, ce serait un peu trop dire, mais nous devons travailler de ce côté-là. Parce que quand l'invité dit qu'il n'y aura pas de cadeaux, mais dans quel pays avez-vous vu qu'on interdise les cadeaux? On contrôle les cadeaux, c'est tout. Mais on ne doit pas interdire les cadeaux. Ça, ce serait, je crois, une utopie. Alors, les élections doivent, à mon sens, doivent rester au suffrage direct. Et on met des mécanismes en comptant sur la justice. Vous savez très bien que ce qui nous fait défaut dans notre pays, c'est la justice. Si la justice fait son travail et que toutes les personnes placées à différents niveaux de l'organisation, chacun joue son rôle, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés.
Merci beaucoup, Olivier. Par rapport à cette brèche ouverte par notre invité, vous estimez qu'on ne peut pas interdire les cadeaux, mais l'idée, c'est qu'on l'a toujours dans les débats. Vous vous rappelez, à la veille des élections de 2018, beaucoup de gens estimaient que les cadeaux qui sont donnés par les candidats s'apparentent à la corruption. La loi devrait interdire cela d'une manière claire. Merci beaucoup, Olivier. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour également bien évidemment notre invité. Je pense que le mode de scrutin dans notre pays, comme vous le savez Monsieur Pierrot, connaît bien plusieurs mutations. Mais je me dis, la question que moi je me pose, c'est là est due à quoi? Alors la question est à retrouver dans les camps de politiques congolais qui peuvent nous en dire davantage. Je pense qu'à mon humble avis, ce n'est pas les moyens qui manquent à notre pays pour organiser chaque 5 ans les élections, mais je voudrais ici aborder donc la question sous une autre facette, celle liée bien évidemment au crédit que l'on peut donner à ces élections. Vous savez que dans notre pays, le problème n'est pas lié au mode de scrutin, mais le problème est à retrouver juste aux conséquences, aux retombées après, avant même la passation de ces élections. Il suffit de voir même qui sont les gens qui sont affectés pour pouvoir assurer, les agents actifs qui sont, n'est-ce pas, placés pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer et amener les élections paisibles dans notre pays. Alors, il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet. Alors, on choisit les gens d'une manière sentimentale, et on ne sait pas par quelle tendance, donc c'est-à-dire par quel calcul on arrive à ce scrutin. Je pense que nous avons eu à le dire. Le problème n'est pas lié à ces mots, tout ce que nous disons là. Le problème est juste que les Congolais, les politiques congolais, prennent conscience, arrivent à prendre conscience pour dire, est-ce que nous ne pouvons pas faire comme les Occidentaux le font? Pourquoi chez eux les choses se passent normalement sans qu'il y ait des inquiétudes? Et pourquoi pas, bien sûr, nous ne pouvons pas exclure cette hypothèse, parce que notre pays est vraiment vaste, aux dimensions continentales, cela n'est pas exclu, mais vous savez, si vous donnez la chance aujourd'hui aux sénateurs d'élire le président, aux députés, vous savez, il n'y a pas longtemps, on a eu à décrier la corruption qui a pris une échelle inquiétante, une dimension très inquiétante. Et alors, donner cette opportunité aux sénateurs, c'est vraiment créer encore des remous au sein des gens. Et je trouve que la crédibilité de nos élections repose seulement sur les élections au suffrage universel. Le président de la République est élu directement par le peuple congolais, et c'est le peuple qui lui donne mandat, parce que au moment où le président n'arrive pas à assumer correctement son travail, et il est sanctionné par les souverains. Ouais.
Alors votre inquiétude, vous l'avez dit, le pays est vaste, vous ne rejetez pas la proposition, mais vous estimez que le problème n'est pas dans le mode, n'est-ce pas, du scrutin. Le problème réside dans la conscience qui doit animer les Congolais, que ce soit ceux qui organisent les élections ou même les politiques qui participent aux élections. Merci beaucoup, Jérémy Adrian. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, je suis donc partiellement d'accord avec Jérémy qui venait d'intervenir. Moi, j'aimerais ajouter un autre aspect, parce que lui a dit que le problème n'est pas au niveau des modes de scrutin. Mais moi, je pense que c'est vrai ce qu'il a dit. Je pense aussi que le problème donc d'un scrutin transparent passe par ce que il y a certains hommes politiques qui ont demandé la réforme des institutions. Je suis tout à fait d'accord. J'ai suivi M. Martin Fayoulou, j'ai suivi M. Denis Essanga, hein, qui demande donc haut et fort pour qu'on puisse réformer les institutions, parce que les institutions clés pour la transparence donc d'un scrutin, non seulement la justice, la CENI, parce que lorsque les choses sont claires au niveau de la CENI, lorsque les animateurs de la CENI ne sont pas là avec des agendas dans leur tête, ils vont présenter donc un scrutin acceptable, et aussi au niveau de la population. Parce que j'entends souvent, non, les résultats n'ont pas donc refléter la réalité exprimée par la population. Mais sous d'autres cieux, lorsque la population ne se retrouve pas donc dans le choix lui proposé par la CENI et la Cour constitutionnelle, et directement on entend, donc on voit directement la population réagir d'une manière ou d'une autre. Donc de ce côté-là, il y a aussi une certaine exagération dans les chefs des politiciens. Parce que tant que la réforme ne sera pas donc entamée, nous resterons donc avec la même situation, c'est-à-dire il y a les gens qui viennent au niveau de la CENI avec leurs candidats dans des poches. Parce qu'il suffit que vous puissiez circuler dans des villes, dans des circonscriptions. Et lorsque vous posez la question à la population, que non, voilà, celui-ci a été voté massivement, et la population réagit directement. C'est vrai que moi, je ne m'aurais pas cité les noms des gens, mais il n'y a pas longtemps, on a proclamé les 5, semble-t-il, les 5 meilleurs élus du pays. Mais parmi ces gens-là, il y a ceux-là qui ont tenté de postuler comme des gouverneurs. Et directement, on a senti que la population était hostile à ces personnes. Et là, moi, je me suis posé la question, mais ça, c'est quand même contraste. Lorsque quelqu'un qui est présenté comme le meilleur élu, il est maintenant face à la population, au lieu que la population jubile, mais la population est en train de marcher pour refuter donc la candidature de cette personne-là.
Et poste de gouverneur, voilà. Alors, ce que vous dites, Adrien, vous dites que le grand problème, c'est la réforme, la CENI, la justice, tout cela doit concourir à un bon scrutin. Pas seulement les directs ou l'indirect, mais il faut focaliser le travail de réforme sur la CENI et la justice. On va écouter Félicien revenir dans ce studio pour écouter notre invité. Félicien, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ah, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capé, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Oui, mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, je pense que le problème des élections dans ce pays, ce n'est pas un problème de mode d'élection, ce n'est pas aussi un problème d'argent, un problème de moyens, mais c'est un problème d'un groupe d'hommes qui ont pris le pays en otage. Qui veulent rester au pouvoir à vie et qui prennent des stratégies pour que le pouvoir ne leur échappe pas. Ça, c'est connu de tout le monde. Et nous sommes dans ce pays et les gens viennent parler dans des médias comme les vôtres comme s'ils parlaient aux gens qui sont à l'étranger.
alors que nous sommes là, nous vivons les choses. Chaque fois qu'il y a élection, comment ça se passe? On nous avait déjà promis ça depuis très longtemps, qu'on va arriver à cela. Et maintenant, on commence à aller lentement et nous verrons toujours des tambourinaires jusqu'aux élections de 2023. Et nous affrontons tous les jours cela. Et on nous dit toujours qu'il y a un problème de moyens. Mais on ne nous a jamais dit comment alors ces gens-là qui arrivent pieds nus, ils deviennent des milliardaires en peu de temps. Mais il n'y a toujours pas les moyens pour organiser les élections. Il n'y a toujours pas les moyens pour résoudre les problèmes et les plus, je vais dire, élémentaires de la vie de la population, comme l'électricité, l'eau et tout ça. Mais il n'y a toujours pas l'argent. Mais on voit des gens devenir riches dès qu'ils accèdent. On entend comment on fait le détournement de ceci, le détournement de tel montant, tout ça, dans ce pays. Mais on arrête avec ça. Mais ces gens-là ont compris. Ils ont compris que depuis qu'ils ont commencé à organiser des élections, chaque année, ils ont vu la sanction du peuple congolais. Ceux qui sont les organisateurs des élections, commençant par l'abbé Malmal de Tissimémoire, en passant par les pasteurs Ngoemoulouna et aujourd'hui Nanga, ils connaissent quelle est la sanction du peuple vis-à-vis de ses dirigeants. Donc, le peuple fait son travail. Mais le problème, c'est la dignité des unes qui n'a jamais eu lieu dans ce pays. Et ces gens-là qui connaissent la position du peuple, ils cherchent maintenant comment faut-il échapper à cette sanction du peuple. Et c'est pourquoi ils font des propositions de ces gens.
Alors, pour vous, Félicien, le fait de proposer à aller au suffrage universel indirect pour l'élection du président de la République, ce n'est qu'une stratégie de conservation du pouvoir ou de reconquête du pouvoir.
Exactement, parce que vous savez comment on fabrique les députés nationaux, les députés provinciaux, comment on fabrique les gouverneurs, comment on les fabrique. Vous connaissez. Et tous ceux qui sont les présidents des CENI connaissent la vérité, ils le savent. Nous avons besoin dans ce pays que des hommes et des femmes patriotes qui aiment leur pays et qui vont dire un jour non à ces injonctions-là d'obéir à des ordres mal donnés, d'obéir à un groupe d'individus, à un individu pour détruire ce pays pour vendre ce pays, ces jours-là, les choses vont changer.
Merci. Merci beaucoup, Félicien. Merci. Merci beaucoup. 081-890-4969 pour intervenir en direct. Vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Sylvain, vous gardez la ligne. Vous êtes à Bounia. On va revenir à vous après que notre invité ait réagi après ces différents propos de nos auditeurs. 081-890-4969.
Radio Okapi. À Bounia. Sur 104.9 FM.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, merci, monsieur Marcel Ilungaleou. Vous avez suivi les compatriotes, votre réaction. Vous avez noté avec moi, hein, je vois bien.
Merci beaucoup. Je voudrais encore une fois de plus remercier les auditeurs, les intervenants, pour leur contribution. Ici, Pierrot, j'ai retenu une chose de toutes les interventions. Les amis disent que ce n'est pas un problème de moyens dans notre pays. L'argent, il y en a pour les élections. Non, mais moi, je dis non. 4 élections au suffrage universel indirect, c'est-à-dire les locaux, les députés provinciaux, les députés nationaux, le président de la République, s'il faut ajouter le deuxième tour, ça fait 5. Mais c'est excessivement cher par rapport à notre budget. Vous savez, le budget, c'est pratiquement une projection de recettes et de dépenses à exécuter. Nous avons un budget de 11 milliards aujourd'hui. Est-ce que nous réaliserons ces 11 milliards à la fin de l'année? Donc, je pense que le problème de moyens, c'est un problème tout à fait réel. De deux, J'ai suivi les intervenants insister sur le fait que toutes les élections qu'on a eues jusque-là, alors qu'elles se sont faites au suffrage universel indirect, mais elles ont toujours été contestées.
Direct, disons, pour l'élection du président de la République.
Oui. Même pour les élections des députés nationaux et provinciaux. Pourquoi ça a toujours été rejeté par la population? Parce que dans cette population-là, du fait du nombre très, très, très élevé des électeurs, on arrive même au bourrage des urnes. C'est à ce niveau-là que la fraude intervient. Mais si nous passons au mode indirect, vous allez aussitôt vous rendre compte que le nombre d'électeurs sera bien connu. Parce que ce sont les grands électeurs. On aura un nombre bien déterminé des élus locaux. Les députés provinciaux, les députés nationaux, les sénateurs et les gouverneurs. Ils sont connus circonscription par circonscription. Je pense que c'est pratiquement la solution à leurs préoccupations. Parce que on doit aller vers 30 millions d'électeurs. Et à l'intérieur de notre pays où il n'y a ni route ni quoi, il arrive même que ces agents de la CENI n'arrivent pas là où ils devraient faire passer ces élections-là. Et tout se passe en cours de route à leur gré. Pourquoi? Parce que ils savent que là, personne ne peut les contrôler. Donc, moi, je pense que ce qu'ils veulent, et avec ce que nous donnons là, c'est la solution aux préoccupations qu'ils posent. La première préoccupation de la fraude, si nous passons aux élections présidentielles, même des gouverneurs et des sénateurs, désormais, selon notre proposition, le gouverneur ne peut pas être élu par 20, 30, 40 personnes qui s'appellent députés provinciaux. Non. Nous proposons que ce soit pour les sénateurs. Ils sont élus par les députés provinciaux ensemble avec les élus locaux.
Les élus locaux.
Ça forme un électorat un peu élargi. Et eux-mêmes viennent s'ajouter aux élus locaux, aux députés provinciaux, pour procéder à l'élection du gouverneur et son vice-gouverneur. Vous voyez qu'à ce moment-là, un gouverneur ne peut pas être chassé par 20 personnes, 30 personnes. Pour le chasser, il faut réunir tous les élus locaux, auxquels s'ajoutent les députés provinciaux et les députés nationaux de la circonscription, qui est la province. Donc là aussi, c'est résoudre cette question, parce que ce gouverneur va battre campagne à travers toute la province.
Pas plutôt dans une salle devant 20 personnes, non. 22 personnes
non.
seulement.
Exactement. Et de même, le sénateur, il ne sera pas élu dans la salle par 20 personnes. Non, il va battre campagne auprès de tous ses électeurs, des élus locaux, avec les députés provinciaux ensemble. Donc, nous avons proposé non seulement pour la présidence de la République, mais nous avons aussi proposé pour les sénateurs et les gouverneurs. Donc, à ce niveau-là, je retiens que il y a plus de peur que de mal. Et quand j'entends ce que M. Félicien a dit, il ne s'agit pas d'une stratégie. Il s'agit tout simplement d'une proposition pour résoudre le problème que nous avons enduré depuis 2006 jusqu'en 2018. Toutes ces élections, on les a contestées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part une possibilité de bourrage des urnes. Je suis parfaitement d'accord aussi que il faut la formation de ces agents-là qui sont commis à ce travail au sein de la CENI. Je suis parfaitement d'accord avec eux quand ils parlent de la réforme des institutions. Je suis complètement d'accord avec eux. Tout ça sont des mécanismes qu'on peut associer à cette élection-là pour avoir des élections qui ne seront pas contestées.
Mais alors, quand vous avez suivi Félicien, et même Olivier est revenu sur la question de la fabrique, il dit, mais bon, on peut fabriquer les grands électeurs. Cela veut dire qu'on peut déjà trafiquer les élections en amont pour avoir des grands électeurs et se reposer sur eux pour être élu président de la République.
Mais je vous ai donné l'exemple. Actuellement, en 2018, que ce soit en 2006, en 2011, ça s'est passé comment? Parce qu'on allait vers ces électeurs-là, primaires. Il y a certains qui ne votaient même pas. Chacun reste dans son coin. Il y a quelqu'un qui vote pour lui. Parce qu'il a les bulletins, il a la machine. Et qui le saura? Au contraire, ce mode-là d'indirect, au niveau élevé, a beaucoup contribué à la fraude, ainsi qu'à la corruption. Alors, maintenant, quand nous avons ces élus locaux qui ont quand même un certain niveau d'appréhension et même d'appréciation, ils peuvent à leur niveau, n'est-ce pas, ensemble avec les députés provinciaux, les députés nationaux, élire au moins d'une manière tout à fait transparente. Comment on va fabriquer ? Ce qui est vrai, c'est que il y aura toujours, n'est-ce pas, dans un coin, telle formation politique qui sera majoritaire, telle qui sera majoritaire ailleurs, ainsi de suite. Il y en aura. C'est la même chose aujourd'hui quand on part vers nos électeurs primaires. C'est chaque leader du coin qui arrive et qui influence les votes et demande aux électeurs « votez pour tel ». C'est ça, c'est là notre candidat. Même sans le connaître. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons rencontrer avec ce mode, nous pouvons rencontrer la préoccupation exprimée par le chef de l'État de rentrer au détour pour la légitimité et aussi minimiser davantage le coût des élections. Parce que ceux qui disent que nous avons beaucoup d'argent là, mais nous sommes potentiellement riches, mais en réalité, nous ne le sommes pas encore. Nous devons encore davantage travailler. Voilà, Pierrot, c'est que je peux répondre.
Voilà, Sylvain, vous nous avez suivi, vous êtes à Bounia. Bonjour, Sylvain. Oui, pourriez-vous, Sylvain, diminuer le volume ou soit arrêter carrément votre poste récepteur. On vous écoute, oui. Oui,
là, si... vous me suivez?
Oui, on vous écoute, oui, allez-y.
Bien, il faut dire que les initiatives de la révision constitutionnelle aujourd'hui deviennent un élément important. Je voudrais aussi annoncer à la communauté nationale et que nous-mêmes, nous pensons qu'il faut revoir cette constitution, spécialement à son article 2. Il faut déplacer la capitale du Congo, de Kinshasa, vers d'autres provinces. Ici, c'est spécialement, nous sommes en train de penser à la ville de Sangani, puisque la ville de Kinshasa, aujourd'hui, ne nous permet pas de faire avancer le pays à cause de l'immoralité et même son état géographique qui ne permet pas que les Congolais réfléchissent correctement. Maintenant, je rentre dans les débats lancés. Il faut spécifier trois choses. La première chose, c'est que nous avons une population qui n'a pas une culture politique responsable. Ceci même se retrouve dans la chair de l'homme politique congolais. Nous avons un problème de culture politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il s'observe rapidement une crise de confiance entre les hommes politiques et la population. Et la troisième chose, il y a cette histoire de l'immoralité de la classe politique congolaise. Devant ces trois questions, on peut se poser la question, comment est-ce qu'il est possible qu'on donne la responsabilité du choix des chefs de l'État à un Parlement? D'abord, selon les termes de l'invité, il faut trouver que c'est très dangereux de pouvoir lancer ces débats à travers les assemblées provinciales. On limiterait les débats au niveau du Parlement, ça veut dire au niveau national, et spécialement l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes d'accord avec l'invité. Cependant, lorsque je pose ces trois questions, je suis en train d'attendre de la part de l'invité qu'il essaie de nous expliquer. Dans une société où ces trois problèmes sont récurrents, ça veut dire la culture politique très faible, il y a la crise de confiance qui s'écrit rapidement entre les acteurs politiques et la population. Vous savez, ce qui est le plus souvent, notre population manque le mécanisme de retrait de sa confiance, puisque les députés ou les sénateurs à Kinshasa divorcent avec la base. Troisième chose, les problèmes de l'immoralité. On a soulevé ici la question de la corruption des députés lors des élections des gouverneurs, mais aussi des sénateurs. Et c'est la même façon lorsqu'on est dans le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et même les différentes commissions au sein de l'Assemblée nationale, ils s'observent pratiquement des comportements de nature à trahir l'image de l'identité des Congolais. Vous savez que le chef de l'État, que je salue en passant, a insisté sur le fait qu'il faut moraliser notre société. C'est très important, puisque nous ne pouvons pas continuer à crier Grand Congo avec une société immorale. Alors, la question de temps, j'ai passé un intervenant a dit quelque chose qui n'est pas bon. Il faut ici soutenir la proposition de cette partie politique et de l'invité qui est avec nous. Il y a la loi électorale qui doit prohiber, disons, interdire toute donation lors des campagnes électorales. Pourquoi? Si c'est fait des donations financières, matérielles, qui corrompt, n'est-ce pas, la volonté même des hommes politiques lorsqu'ils gagnent les élections après avoir vendu ses maisons, vendu ses biens pour être élu. Eh bien, lorsqu'il part siéger, la première des questions, il faut qu'il puisse récupérer ses biens perdus. Ce qui ne lui permet pas d'agir au profit de la République. C'est comme ça, il s'attire ça, comme je viens de le dire, lors des élections du bureau ou même de son installation de commission. Il se fait corrompre, et bien, ça devient une sollicitation de l'homme politique. C'est très dangereux. Donc, il y a des pays, je cite les Kenyans, il y a aussi des grands pays occidentaux, qui ont déjà mis des mécanismes de contrôle pour fiabiliser l'acte de vote. Il ne faut pas qu'on y implique, n'est-ce pas, les donations financières ou des cartes de vote.
Alors, c'est important. Sylvain, vous avez raison. Allez-y rapidement, oui.
Je termine déjà ceci. Il nous faut empêcher, la loi électorale doit dire ça spécifiquement, et même s'il faut qu'on essaie ça dans la Constitution. Les lois politiques, surtout au niveau de représentativité, ça veut dire législative, que ce soit provincial ou national, il faut éviter que les lois politiques se substituent, n'est-ce pas, à l'exécutif, où on commence à construire le pont, on commence à construire la route, on commence à distribuer des plans.
Voilà, et ces cadeaux qui sont d'une manière tacite, c'est une corruption. Merci, hein. C'est Olivier qui disait que c'était impossible d'interdire les cadeaux aujourd'hui. Alors, nous allons permettre à l'invité d'agir rapidement parce que vous avez dit comment faire face à ces trois préalables, la culture, le manque de culture politique, la crise des confiances et l'immoralité. Alors, il aurait souhaité que cette question des grands électeurs se limite seulement entre au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pourriez-vous réagir directement? Comment faire face à cela avant d'écouter les deux autres auditeurs?
Oui, monsieur Sylvain, merci beaucoup. Parce que vous avez même déjà apporté la solution. Il faut moraliser la société, comme l'a dit le chef de l'État. Ça, c'est important. Pour que la population puisse avoir la culture politique, c'est aux dirigeants d'impulser, de sorte qu'on puisse moraliser toute la société congolaise. La crise de confiance, oui, elle naît parce que la population ne se retrouve pas. Vous vous imaginez, on va aux élections universelles directes, la population a voté pour tel, mais on va proclamer tel autre. La population ne sera pas contente, elle ne va pas s'adhérer. Mais si ces députés nationaux, ou ces sénateurs, ou le chef de l'État est élu par les représentants, à ce niveau-là, on va réduire le niveau de la corruption, le niveau de la fraude, on connaît le nombre d'électeurs. Et à ces moments-là, ils vont élire en âme et conscience. Ils savent que ce sont les gens à qui nous avons donné la responsabilité. L'immoralité, tout cela, c'est tout simplement des maux qu'il faut éradiquer en commençant par la mobilisation de la société et aussi en restructurant les institutions.
Et c'est pourquoi il veut que la loi électorale interdise clairement la remise des cadeaux pendant la campagne électorale.
Je crois que je le dis. L'ai dit que c'est une forme de la corruption. Il faudrait que ça soit dit expressement, même dans la Constitution. Pas question de ces cadeaux-là, parce que c'est une forme de corruption. Mais quant à dire qu'on revienne au Sénat et à l'Assemblée nationale seulement comme les grands électeurs, non. Nous, nous avons pensé que pour lutter encore davantage contre cette corruption, il faut élargir l'électorat. En allant avec cet électorat jusqu'au niveau des élus locaux. Parce que plus le nombre est important, plus les corrupteurs risquent de manquer les moyens pour les corrompre. Et c'est ça ce qui a motivé notre proposition.
Merci. Alors on va écouter les trois derniers. Je crois qu'on aura la possibilité d'évacuer, de donner la parole à chacun selon le nombre de minutes qui nous reste. Papy, Charles et Simon, peut-être à chacun une minute et demie. Ça peut être suffisant pour exprimer votre pensée. Papy, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Major Kabedi. Bonjour à notre invité.
On vous écoute rapidement, oui.
Je serai bref, vraiment. La Constitution nous garantit la liberté d'opinion. Nous pouvons que vraiment soutenir son opinion. Mais pour moi, qu'un président, par rapport à sa proposition, être élu par suffrage universel indirect, c'est remettre Jésus sur la croix. Pourquoi? C'est là. Parce que si un député élu dans la province, vous lui approchez, vous, la population, que vous l'avez élu, même s'il a été élu dans un territoire, vous lui posez un problème d'aide parce que l'un de vous est malade et est mort pour lui faire arriver au cimetière. Il vous dit que vous ne m'avez pas élu, j'ai été élu dans ma circonscription électorale de tel territoire. Bon, si ce président-là est élu par suffrage universel indirect, il risquera de nous dire, nous, la population congolaise, que vous ne m'avez pas élu, j'ai été élu par les grands électeurs. c'est incontestable.
Voilà. Mais déjà aujourd'hui, mais déjà aujourd'hui, par le suffrage universel direct, je ne crois pas qu'un seul président ait eu le voix dans tous les territoires. Hein. Il y a toujours ces déséquilibres, n'est-ce pas? On peut être élu dans une province avec beaucoup de voix, et d'ailleurs, même dans d'autres provinces, on n'a pas été élu. Je crois que le problème, quand quelqu'un est élu, il est élu pour tout le monde. Il ne peut pas dire que non, voilà, je n'ai pas été élu par vous, mais vous ne soutenez pas ça, parce que vous risquez d'avoir un président aussi qui dise que non, voilà, je ne réponds pas à vous, la population, ce sont les grands électeurs qui m'ont élu. Merci, papy. Charles, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Charles, pourriez-vous arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît? Charles, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis avec vous, Pierrot.
On vous écoute rapidement, oui.
Oui, merci pour la parole. Je vais être aussi bref comme mon prédécesseur. À mon avis, Pierrot, je crois que lorsqu'on parle des élections, il y a deux points. Il y a le problème politique et il y a aussi le problème économique. Mais j'ai constaté que les gens se cramponnent toujours derrière l'économie pour dire que les élections coûtent très cher. Mais il y a aussi un problème politique. Surtout que si ces gens-là ont déjà leur base, c'est comme ça qu'ils proposent de telles propositions, permettez-moi la tautologie, parce qu'ils savent que derrière ça, ils vont tirer les dividendes. Mais moi, je crois, Pierrot, que cette loi que notre frère vient de proposer, j'ai dit que c'est prématuré. Pourquoi je le dis? Nous, les Congolais, nous ne devons pas avoir la mémoire très courte. Je prends rapidement l'exemple des élections du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Parce que lorsque notre invité est en train de dire, quand il a donné l'exemple de Fayulu, il n'était pas connu. Mais est-ce que c'est les gens qui ont été élus par les grands électeurs, je dis bien, est-ce qu'ils étaient connus? Et nous savons comment ces élections-là ont eu lieu. Il y a eu une nomination. On a dicté les gens, vous devez voter tel et non tel. Alors, moi, je crois que cet exemple qu'il, ou bien cette proposition qu'il nous dit aujourd'hui, qu'on doit passer, que les grands électeurs puissent nous représenter, ça, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que les grands électeurs nous ont pas montré un bon exemple. Pour citer, Pierrot, pour citer, il y a aussi le devoir de redevabilité, comme l'ont dit déjà mes prédécesseurs. Si nous hasardons à opter cette proposition-là, nous allons pleurer comme nous sommes en train de pleurer au jour d'aujourd'hui.
Alors, mais Charles, vous estimez, il y a la question de redevabilité. Simon a toujours évoqué ça dans cette émission, vous avez dit. Mais les grands électeurs, c'est votre responsabilité, n'est-ce pas? C'est aussi la responsabilité de la population de savoir qui je vais envoyer comme député national, comme député provincial, comme élu local. C'est à vous de savoir choisir des hommes intègres, parce que ces grands électeurs que nous déplorons sont l'émanation de notre choix, nous, la population. C'est ça aussi le rôle de la population, n'est-ce pas, Charles?
Oui, Pierrot, c'est le rôle de la population, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous-même, vous savez, ceux qui sont en train de siéger aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été réellement élus par la population? Non.
Voilà, ça c'est le débat au niveau de la transparence. C'est pourquoi il y a les compatriotes qui ont dit, hein, il faut travailler beaucoup plus sur l'administration des élections pour qu'on assure la crédibilité du scrutin et la transparence. Simon, merci, on va terminer avec vous. Pour les auditeurs, vous êtes à Matadi. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour à vous, Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. En fait, la solution est trop simple. C'est que, évidemment, ça, ce sont ses opinions qu'il est en train de donner, mais avec déjà trois cycles électoraux passés, 2006, 2011, 2018, nous devrons aujourd'hui tirer de très bonnes conclusions en ayant comme expérience tous ces cycles qui sont passés. La solution est très simple. Sa formule-là risque de pousser l'aristocratie de siéger, parce que quel que soit le nombre de gens qui se multiplient, les riches vont toujours corrompre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On m'aurait donné la tête de la CENI. Première chose, c'est de décentraliser fortement la CENI. Parce que lorsque la CENI est fortement décentralisée, toutes les élections, tous les scrutins vont devoir se passer au suffrage universel. Le DIC est voté par le village et son village, on pilule les résultats au niveau du village. Le gouverneur est voté sur l'ensemble de sa province. Les résultats sont publiés par territoire. les députés nationaux, parce que moi, je suis ceux de cela qui prendent qu'on puisse supprimer les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux parce que ils sont budgétivores pour rien. Ce sont des choses qu'on devrait réfléchir pour voir comment
voilà.
Le mettre.
Parce qu'on ne peut
place.
Parler plus long. Mais Simon, on peut retenir. On peut retenir dans votre. Oui, Simon, on peut retenir dans votre point de vue que la question de la réforme des institutions, elle est très, très importante. Mais vous avez aussi peur qu'avec des grands électeurs, qu'on instaure une certaine aristocratie. Cela veut dire que celui qui a des moyens risquera toujours de contourner pour aller corrompre. Voilà. Le débat, il est très, très intéressant, monsieur Marcel Ilungaleo. Vous avez suivi, les compatriotes. Vous l'avez dit, c'est une proposition. Faudrait-il maintenant engager le débat? Mais un auditeur a dit tout à l'heure que la société est en mutation. Cela veut dire qu'on est parti d'un point à un autre. La politique, comme on dit, elle est dynamique. Les débats s'engagent. On est en mutation, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir après avoir écouté tout le monde?
Oui, je remercie encore les trois intervenants. De toutes les façons, le tout dernier a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Nous avons passé trois cycles électoraux. Quelles sont les conclusions auxquelles nous sommes arrivés aujourd'hui? Des contestations en contestations. Et il a même bien dit que c'est maintenant que nous devons aboutir aux conclusions qu'il faut. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de faire cet effort. Parce que on a organisé toutes ces élections-là au
suffrage. Pas avec des calculs politiciens pour vous repositionner demain.
Non, pas nécessairement. Moi, peut-être.
Vous ne serez pas candidat à président de la République.
Non, donc, alors, ce que je voudrais que les amis puissent comprendre, c'est quoi? C'est que tous les trois cycles électoraux que nous venons de passer dernièrement ont abouti par des contestations. Mmh. Il y a ceux qui contestent les élus, les députés nationaux, qui sont là. Alors qu'ils ont été élus par cette même population. Et moi, je vous informe que 60% de notre population se trouve à l'intérieur, dans des zones tout à fait rurales, où c'est le leader d'opinion qui oriente. Donc, ça ne change absolument rien. Cette corruption-là, elle est en train de se vivre partout à l'intérieur. On donne des pagnes, on donne ceci, c'est la corruption. Est-ce que la population s'exprime en âme et conscience? Non. Et nous pensons que si les gens de l'intérieur, les gens qui sont dans des coins recoins, au niveau de chaque circonscription, peuvent voter les élus locaux. Là, ils vont voter en âme et conscience parce qu'ils savent que celui-là, c'est le fils de tel, celui-là, c'est le fils de tel. Bon, là-bas, dans cette famille-là, ils sont très bien et ils sont serviables. Mais là-bas, non, ils sont égoïstes. Ils vont en âme et conscience voter. Mais alors, les autres là, qui vont monter vers les autres élections, et au moins, ils ont un certain niveau d'appréciation. Mais dire qu'on va les corrompre, bien sûr, je vois que tout le monde insiste sur ça, on va les corrompre, mais on doit combattre cette corruption.
Mais c'est pourquoi je le disais tout à l'heure pour terminer à Charles, que c'est la responsabilité aussi des électeurs de savoir qui on élit, parce que demain, il va prendre la responsabilité d'opérer les choix en votre nom.
Tout à fait. Et en faisant ça, je crois que on pourra arriver à la solution. Voilà, je voudrais tout simplement remercier les intervenants. C'est un débat qui est lancé. Nous allons continuer à réfléchir et jusqu'à ce que nous allons écrire à l'Assemblée pour donner nos propositions.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Marcel Ilungaleo, président du Front National des Fédéralistes du Congo. Merci, Le débat est lancé. On le poursuit d'ailleurs sur la page Facebook avec les auditeurs. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamegi. Je vous l'ai présenté. On se retrouve le lundi pour un nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Mais ce magazine est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion demain samedi à 11h, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.